Merci d'être avec nous à l'écoute de RFI. Il est midi, temps universel, 15h à Tel Aviv, 15h30 à Téhéran. Bonjour.
Charlotte Hydrac.
Et bienvenue pour cette demi-heure largement consacrée à l'escalade entre Israël et l'Iran. Frappes aériennes et tirs de missiles. Les deux pays continuent de s'attaquer mutuellement ce samedi après l'offensive massive lancée par l'État hébreu. L'opération Rising Lion qui a fait au moins 78 morts. Téhéran a lancé sa riposte hier soir. 3 personnes au moins ont été tuées. Et maintenant, le ministre israélien de la Défense affirme que Téhéran brûlera si l'Iran poursuit ses tirs de missiles. Le régime iranien lui promet des attaques encore plus dures. On appellera l'ambassadeur d'Israël en France, Joshua Zarqa. Le chercheur Hasni Abidi sera également notre invité.
RFI Midi.
À suivre aussi, reportage à Los Angeles où des Marines armés sont déployés pour rétablir l'ordre selon le président Trump face aux manifestations contre sa politique. Les États-Unis où va débuter la Coupe du Monde des clubs de football. Nouvelle formule, affiche inédite et joli chèque à la clé pour une compétition controversée. Oui, l'engrenage entre Israël et l'Iran. La confrontation donc se poursuit après l'offensive lancée hier par l'État hébreu, notamment contre des installations militaires et nucléaires iraniennes. Téhéran a riposté. Dès hier soir, des sirènes d'alerte ont retenti en Israël. Des missiles balistiques iraniens se sont abattus principalement sur Tel Aviv et la côte israélienne. Bilan, 3 morts et des dizaines de blessés. L'armée israélienne mène là ces dernières heures de nouvelles frappe. Elle affirme avoir détruit des défenses aériennes en Iran. Siavosh Ghazi, on vous retrouve. Vous êtes en direct de Téhéran. L'Iran, de son côté, promet des attaques encore plus dures.
Absolument, c'est le porte-parole de l'état-major des forces armées qui a déclaré ce matin à la télévision iranienne que donc l'Iran allait poursuivre et durcir ses attaques contre Israël pour, je le cite, faire regretter au régime sioniste les actions menées contre l'Iran. Donc on est dans cette ligne de mire pour mener encore plus d'attaques. Des rondes ont été lancées contre l'État hébreu ce matin par l'armée iranienne, contre le nord d'Israël. En ce moment même, depuis 2 heures, il y a eu des attaques israéliennes contre plusieurs villes de l'ouest de l'Iran, le long de la frontière avec l'Irak. Des bases militaires visiblement ont été donc touchées, mais aussi d'autres installations, notamment une usine de production de voitures. Et puis, autre nouvelle importante, l'Iran désormais refuse de participer aux négociations avec les États-Unis prévues pour demain. Donc une déclaration officielle du porte-parole du ministère des Affaires étrangères qui a affirmé que mener des discussions, je cite, avec un pays qui est le principal soutien et complice de l'agresseur n'a pas de sens. Donc un refus officiel. Donc désormais il n'y aura plus de discussion avec les États-Unis tant que les attaques israéliennes n'auront pas cessé.
Ce nouveau cycle de discussions entre l'Iran et les États-Unis prévu à Oman. Merci à vous, Siavosh Ghazi, en direct de Téhéran. Les attaques israéliennes ont fait 78 morts au moins, selon le représentant iranien à l'ONU. L'espace aérien iranien a été fermé jusqu'à nouvel ordre. En Israël, c'est l'aéroport international Ben Gurion qui a été fermé après les tirs de missiles iraniens qu'on évoquait la nuit dernière et qui ont fait 3 morts au moins. Michel Paul, vous êtes, vous, à Jérusalem également en direct. L'armée israélienne indique que 7 soldats ont été blessés dans les frappes iraniennes. Et alors que l'offensive se poursuit contre l'Iran, on en parlait, les responsables militaires israéliens dressent un premier bilan.
Oui, Charlotte, et selon le porte-parole militaire israélien, ce sont plus de 450 cibles qui ont été frappées. Elles visaient des personnels et des sites militaires et nucléaires, notamment les installations de Natanz et d'Ispahan. Le site de Fordo, lui, n'a pas été directement visé, même si les autorités iraniennes ont reconnu des dégâts limités dans ces infrastructures. Alors, l'armée israélienne affirme encore avoir frappé dans la région de la capitale iranienne des batteries de missiles solaires et désormais la voie de Téhéran est ouverte, proclame le chef d'état-major israélien, le le général Eyal Zamir. Israël Katz, le ministre de la Défense, lance une nouvelle menace. Téhéran brûlera si l'Iran poursuit ses tirs de missiles sur Israël. Israël qui reconnaît également avoir tué 9 ingénieurs du programme nucléaire iranien et à retenir encore la mobilisation de plusieurs dizaines de milliers de réservistes, le fait que Gaza devienne un théâtre d'opérations secondaire et la nouvelle directive de la défense passive israélienne. Il n'est plus nécessaire de se trouver à proximité d'un espace protégé, et cela sur l'ensemble du territoire israélien.
Michel Paul, merci à vous en direct de Jérusalem. Parallèlement, les appels à la désescalade continuent. Le pape Léon XIV appelle ce matin l'Iran et Israël à la responsabilité et à la raison. Je cite, Londres, de son côté, se dit alarmé. Aux États-Unis, on sait que le président américain avait été prévenu par son allié israélien de ses frappes en amont. Donald Trump a appelé l'Iran à conclure un accord sur le nucléaire et mis en garde sur de prochaines attaques encore plus brutales, prévient-il. Le président français, lui, a défendu hier le droit d'Israël à se protéger face à une menace nucléaire de l'Iran, tout en appelant au dialogue et à la négociation. Emmanuel Macron a affirmé que la France participerait aux opérations de protection et de défense d'Israël en cas de représailles iraniennes, si elle est en situation de le faire. Précision donc d'Emmanuel Macron, position difficilement soutenable selon Thierry Coville, chercheur à l'IRIS et spécialiste de l'Iran. Pour lui, l'offensive israélienne est illégal au regard du droit international.
Un observateur impartial note qu'un pays, Israël, a attaqué l'Iran. Alors on nous parle d'attaque préventive. Mmh. Notre président Emmanuel Macron voit le droit de l'Israël à se défendre. Ils ont attaqué un autre pays. Donc c'est complètement contraire au droit international. Donc le gros problème, il est là, je pense. Je suis très très mal à l'aise personnellement suite à ces déclarations d'Emmanuel Macron. Même le secrétaire général de l'OTAN, je crois qu'il a parlé d'une action unilatérale d'Israël. Donc imaginez que la France est attaquée tout d'un coup, nos sites nucléaires attaqués, nos chefs militaires attaqués. Oui, l'Iran se considère qu'ils sont en situation de guerre. Bon, dans ce cas-là, ils répondent. Il faut arrêter de faire de l'Iran un pays spécial. N'importe quel pays dans la même situation, je pense, réagirait de manière similaire.
Le chercheur Thierry Coville, invité ce matin de Julien Coquel-Rohem, entretien à retrouver sur RFI.fr, comme les toutes dernières informations et déclarations sur cette confrontation Israël-Iran. On y revient, nous, dans quelques minutes avec notre invité, l'ambassadeur d'Israël en France. Un double anniversaire aux États-Unis, les 250 ans de l'armée et les 79 ans de Donald Trump qui organise aujourd'hui une grande parade militaire à Washington, la capitale qui a été barricadée. Défilé rare, ce n'est pas du tout une tradition américaine. Et les opposants au président ont prévu aussi de défiler avec des manifestations à travers le pays contre la politique de Donald Trump, accusé d'autoritarisme. Ce sera le cas notamment à Los Angeles, en Californie, bastion démocrate agité ces derniers jours par des mobilisations contre les arrestations d'étrangers. Des centaines d'entre eux ont été arrêtés dans des opérations coup de poing de la police de l'immigration à Los Angeles. Mais certains travailleurs sans papier sont revenus sur les parkings de la ville pour proposer leurs services. Reportage de nos envoyés spéciaux Abla Jounaïdi et Bertrand Eclair.
C'est un point connu de tous à Los Angeles. Pour ceux qui ont des travaux à la maison, on trouve des travailleurs à embaucher pour quelques heures sur le parking de l'enseigne Home Depot. C'est donc ici que la police fédérale de l'immigration a trouvé des proies faciles à arrêter en fin de semaine dernière. Giovanni Santos, originaire du Guatemala, n'était pas là ce jour-là. Aujourd'hui, il est déjà de retour sur le parking.
Au Guatemala, oui, ils sont préoccupés par la situation ici, l'insécurité et le danger qu'on court. Mais moi, non, je n'ai pas la moindre peur. Ça va passer, il faut surmonter tout ça.
Pedro, originaire du Guatemala, lui aussi est venu également déjouer la peur ce matin, alors que les habitants de Los Angeles se préparent à manifester contre les arrestations parfois musclées des travailleurs sans papier.
Je demande à Dieu qu'il prenne soin d'eux où qu'ils soient. Nous, on est obligés de sortir pour chercher du travail, pour manger tous les jours. J'ai un peu d'inquiétude, mais pas trop de peur. Ceux qui ont peur ne sont pas sortis de chez eux pour chercher du travail. Donc je suis inquiet, mais je me tiens prêt. Au moindre mouvement, je cours.
On va rester aux États-Unis, on continuera à travailler dur, poursuit l'homme. Près de 330 travailleurs sans papier ont été arrêtés depuis vendredi dernier à Los Angeles. Abla Jounaïdi, Bertrand Eclair, Los Angeles, RFI.
Les États-Unis, où va débuter là dans quelques heures la Coupe du Monde des clubs de football. Bonjour Christophe Diranjean.
Bonjour Charlotte.
Et c'est une nouvelle formule hein, de cette Coupe du Monde des clubs, nouvelle formule d'une compétition jusqu'alors très discrète.
Bah oui, qui a déjà eu bien en tête le format original de ce tournoi lancé en 2000 et pas mal modifié par la suite. Pas grand monde, peu lisible, peu médiatique, ce mondial a été repensé donc et poussé par le patron de la FIFA, Gianni Infantino. 32 équipes au lieu de 7, davantage de clubs phares, de stars d'hier et d'aujourd'hui, Messi, Mbappé, Haaland, Dembélé. La promesse de jolis chèques pour les équipes du plateau et tant pis pour la surcharge du calendrier et les risques de stats qui sonnent creux. Le mondial mode d'emploi, Solène Ravenel.
Un big bang dans l'histoire du football, voilà comment le président de la FIFA Gianni Infantino définit ce mondial des clubs. Les 32 équipes qualifiées pour disputer cette compétition se retrouvent aux États-Unis. Au total, 12 formations européennes, 6 sud-américaines, 4 asiatiques, 5 d'Amérique du Nord et centrale et 1 d'Océanie, réparties en 8 groupes de 4. Et pour Gianni Infantino, c'est la promesse de rencontres au sommet. Les affiches sont bien inédites. Par exemple, les Égyptiens d'Al Ahly, en plus de rencontrer l'Inter Miami, joueront contre Palmeiras et le FC Porto. De leur côté, les Marocains du Wydad affronteront Manchester City ou la Juventus. Moins original par contre, le PSG qui débutera face à l'Atlético Madrid. Cette compétition est aussi une manne financière importante pour les clubs participants. Le vainqueur repartira, lui, avec presque 35 millions d'euros. Mais elle est aussi très critiquée, d'abord parce qu'elle arrive à la fin d'une saison déjà très longue pour les joueurs, ensuite parce qu'elle peine à trouver son public. À quelques heures du coup d'envoi du premier match, de nombreux billets sont encore en vente, malgré les importantes baisses des prix ces derniers jours. Et les questions sécuritaires se sont également invitées avec la multiplication des manifestations contre la politique migratoire de Donald Trump.
Et pour les passionnés et les insomniaques, ce n'est pas incompatible. Match de ce mondial des clubs inaugural, Inter Miami à l'Arly la nuit prochaine, minuit, temps universel.
La NBA Oklahoma City entretient le suspense dans la grande finale contre les Pacers d'Indiana.
Dominé durant quasiment toute la partie, le Thunder a fini par prendre le dessus sur le parquet de son adversaire qui plus est et l'emporter 111 à 104 pour égaliser à 2 victoires partout grâce notamment à un dernier carton de haute volée de son joueur vedette, le Canadien Shai Gilgeous-Alexander, 31 points, 5e match dans la nuit de lundi à mardi.
Et puis le dénouement de la saison européenne de handball, c'est ce week-end.
Oui, avec le Final Four de la Ligue des Champions masculine à Cologne, un club français est de la partie. Nantes, opposé tout à l'heure à 13h, temps universel, aux Allemands du Füchse Berlin. Dans l'autre demi-finale, les tenants du titre, le FC Barcelone, affrontent un autre club allemand, Magdebourg, sacré en 2023. Enfin, le départ dans un peu moins de 2 heures d'une course automobile mythique, les 24 heures du Mans, référence mondiale des épreuves d'endurance. C'est Ferrari qui détient le titre, mais ce sont des équipages Cadillac qui s'élanceront des 2 premières places de la grille.
Christophe Diremzian, à tout à l'heure. On vous retrouvera notamment dans Mondial Sport à partir de 16h10, temps universel. Retour sur cet engrenage entre Israël et l'Iran après l'offensive lancée hier par l'État hébreu, l'opération Rising Lion. Téhéran a lancé sa riposte hier soir avec des tirs de missiles balistiques contre Israël. Bonjour Joshua Zarka.
Bonjour.
Ambassadeur d'Israël en France, merci d'être en direct avec nous et avec Guilhem Delteig dans ce studio du service international de RFI, ancien correspondant à Jérusalem. L'armée israélienne annonce là dans un communiqué que ses avions de chasse vont reprendre les frappes, que les voies vers l'Iran ont été ouvertes, ce sont les termes de ce communiqué. Qu'est-ce que cela signifie, monsieur l'ambassadeur, concrètement? C'est une nouvelle phase de ce qu'on peut qualifier de guerre ouverte?
Non, ce n'est pas une nouvelle phase. Nous avions clarifié d'une façon très claire que notre but n'était pas d'avoir une opération qui durerait un jour seulement. Nous allons nous débarrasser le Moyen-Orient de la capacité nucléaire militaire que l'Iran voulait développer. Et tant que cela n'est pas terminé, nous devons continuer cette opération. Nous allons continuer cette opération.
Mais quand le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, déclare « Téhéran brûlera si l'Iran tire de nouveaux missiles sur Israël », ça va au-delà justement de cet objectif que vous évoquiez des installations nucléaires.
C'est exactement pour clarifier aux dirigeants iraniens, parce que ce n'est pas avec le peuple iranien que nous avons un problème, bien au contraire. Le peuple iranien en a assez de ses dirigeants, de ses moulas, de ce régime qui les tue. Alors c'est pour clarifier à ce régime que qu'il faudrait mieux de ne pas tirer contre nos civils. Nous n'attaquons pas ni Téhéran, ni les civils les iraniens, bien sûr, mais seulement des militaires et des infrastructures militaires.
Guilhem Deltaï a une question.
Pour rebondir sur ce que vous dites, monsieur l'ambassadeur, parmi les victimes qui ont été annoncées hier en Iran, une grande partie sont des civils, selon l'ambassadeur de l'Iran à l'ONU.
Oui, mais c'est vrai, c'est selon l'ambassadeur de l'Iran à l'ONU, comme vous l'avez dit.
Mais donc vous niez la qualité de civil de ces personnes ?
Nous faisons en sorte de nous, non pas seulement en sorte, mais nous ciblons seulement les militaires. Si vous avez vu les frappes, certaines des frappes qui ont été faites, c'est non seulement les militaires et les personnes chargées des opérations militaires, mais c'est aussi la chambre à coucher spécifique de la personne où il dormait. C'est seulement l'appartement, par exemple, de M. Chamkhani, qui était responsable du programme nucléaire et d'autres. Ce n'est pas contre des civils. Ce qu'a fait l'Iran hier, en quatre différentes occasions, c'est de tirer des missiles contre des civils, contre des endroits qui sont peuplés par des civils et non pas ciblés, par exemple, des bases militaires, ce qui serait, comme on dit, de bonne guerre.
Vous dites que vous voulez débarrasser le Moyen-Orient de la menace nucléaire iranienne. Beaucoup d'experts doutent de la faisabilité de se débarrasser totalement de cette menace. Un certain nombre d'infrastructures iraniennes, d'infrastructures nucléaires sont enterrées, souterraines. Les États-Unis auraient peut-être les bombes pour les atteindre. Israël, de ce qui est connu, ne les a pas. Donc, est-ce que vous pensez vraiment que c'est un objectif réaliste que de vouloir débarrasser...
Vous utilisez le terme de ce qui est connu, justement. Vous savez, dans le développement de capacités militaires, il y a énormément de choses qui ne sont pas connues par le public. Si nous avons décidé de faire cette opération, c'est que nous savons qu'elle peut aboutir.
Vous estimez avoir les capacités militaires pour atteindre les infrastructures souterraines ?
Ce qui est connu par des gens qui sont soi-disant des experts militaires qui ne savent pas ce qu'il y a exactement, ce qui existe dans les arsenals israéliens, ne veut rien dire. Si nous avons décidé de faire cette opération, c'est que nous sommes certains de pouvoir y aboutir.
De pouvoir éradiquer complètement le programme nucléaire, pas juste de le retarder.
Vous savez, regardez, il y a eu deux différentes occasions, il y a eu des événements dans lesquels Israël a débarrassé le Moyen-Orient de programmes nucléaires illicites. C'était en Irak et en Syrie. Dans les deux cas, des experts internationaux disaient que c'était impossible et que de toutes les façons ça allait repousser le programme de plus un ou deux ans. Et dans les deux cas, jusqu'à présent, il n'y a pas. Les deux dictateurs ont disparu, mais quand ils étaient encore en vie, ils n'avaient pas repris leur intention de développer une arme nucléaire. Alors, les experts souvent sont des experts civils qui ne savent pas exactement de quoi il s'agit. Ou bien c'est des gens qui connaissaient les facts dans le passé, mais ne connaissaient pas de quoi il s'agit aujourd'hui. Encore une fois, je répète d'une façon très claire, si nous avons décidé de faire cette opération, c'est que nous pensons, que nous savons que nous pouvons y aboutir.
Monsieur l'ambassadeur, vous parlez d'opération préventive. Dans quel cadre légal, notamment, se déroule cette opération ? Il n'y a pas de résolution de l'ONU, a priori pas de concertation avec les alliés d'Israël.
Mais il n'y a pas une question, c'est pas une question seulement d'opération préventive. Vous savez, le 7 octobre est un événement iranien. Sans l'Iran, le Hamas n'aurait pas eu d'armes, n'aurait pas eu le soutien militaire, n'aurait pas eu le soutien économique qu'il a eu. Et non seulement cela, mais en deux différentes occasions, l'Iran a tiré directement sur notre territoire des centaines de missiles. La première fois, 350 missiles de croisière et drones. La seconde fois, 180 missiles.
Mais il n'y a d'armes nucléaires utilisées le 7 octobre.
Madame, j'essaie de vous répondre. Donc, en deux différentes occasions, l'Iran a tiré directement des centaines de missiles contre Israël. Alors, nous sommes déjà en guerre avec l'Iran depuis des années, depuis très longtemps. L'Iran a tiré des missiles et des missiles de croisière et des roquettes, ça n'arrive pas, et des drones contre Israël à sa maintes occasions. Alors, dire que c'est une opération qui vient comme ça, comme si on était en paix avec le régime iranien et d'un seul coup on a décidé d'attaquer, c'est pas du tout le cas. L'Iran nous a attaqué, nous attaque régulièrement. L'Iran a essayé d'assassiner des gens en Israël. L'Iran arme les groupes terroristes qui opèrent en Israël et l'Iran a attaqué directement le territoire israélien avec des missiles de son territoire directement.
Est-ce que c'est une opération qui s'inscrit pour votre pays dans un temps long ? Combien de temps ça va durer ?
Non, ce n'est pas dans un temps long. Notre intention est de faire ça le plus rapidement possible. Ce n'est pas une opération de plusieurs, de longues semaines. Ce n'est clairement pas une opération de mois. C'est une opération que nous essayons de raccourcir le plus rapidement, de faire le plus rapidement possible, de raccourcir autant qu'on peut.
Le président français s'est exprimé hier. Il a défendu le droit d'Israël à se protéger, tout en appelant à la négociation pour régler la question nucléaire iranienne. Est-ce que le Premier ministre Benjamin Netanyahou a parlé à Emmanuel Macron?
Oui, ils se sont parlé, ils ont une très bonne discussion. Les deux dirigeants se parlent assez régulièrement et généralement ont de très bonnes discussions.
Et est-ce que la France participe aux opérations d'une manière ou d'une autre?
D'abord, la France n'a pas du tout participé à l'attaque. C'était une opération qui était une opération israélo-israélienne. La question de la défense d'Israël par rapport aux attaques iraniennes est une question, je pense, dont le président a parlé, qu'il comptait aider Israël à se défendre contre les attaques iraniennes.
Guilhem Deltay.
La question de la légalité aujourd'hui, elle a été posée par un certain nombre de personnes. Vous estimez que vous étiez dans un état de légitime défense après le 7 octobre?
Mais
c'est ça qui constitue la légalité, le cadre juridique dans lequel vous intervenez.
Ce n'est pas seulement le 7 octobre. Vous savez, quand un pays comme l'Iran dit d'une façon très claire, et c'est le président, le dirigeant de ce pays, déclare d'une façon très claire, plus d'une fois, il le répète pratiquement chaque semaine, qu'il compte détruire l'État d'Israël. Et il le dit d'une façon très claire. Il met même une date. 2035 était la date à laquelle l'Iran devait détruire Israël, de terminer de détruire Israël. Quand ce pays arme tous les ennemis autour d'Israël, et non seulement cela, mais les encourage, les finance. Et en plus, quand cet ennemi développe la capacité de détruire mon État, nous sommes en toute légitimité. En plus, si vous voulez ajouter cela, l'Iran a deux fois attaqué, comme je dis auparavant, deux fois attaqué par des centaines de missiles tirés de son territoire à attaquer Israël.
Et au-delà du nucléaire, est-ce que donc l'objectif, c'est la chute du régime iranien, c'est l'anéantissement de l'Iran?
Non, clairement, je dis ça d'une façon catégorique. D'abord, l'anéantissement de l'Iran, pas du tout. Vous savez, le peuple iranien est un peuple pacifique, un peuple avec qui veut et qui a vécu en paix avec nous, et nous n'avons aucune raison de ne pas vivre en paix avec eux. Nous voulons et nous pourrons et nous vivrons en paix avec le peuple palestinien. Alors clairement, ce n'est pas d'anéantir l'Iran. Mais non seulement cela, ce n'est pas non plus d'amener un changement de régime. Nous sommes un petit pays et nous nous défendons. Nous ne sommes pas un nouvel architecte du Moyen-Orient.
Même si le Premier ministre disait hier dans une vidéo, le temps est venu pour le peuple iranien de s'unir face au régime pervers et oppressif. Une dernière question, monsieur l'ambassadeur, s'il vous plaît. Est-ce que du fait de cette opération contre l'Iran, le front de Gaza devient pour votre pays un théâtre d'opérations secondaires?
Je voudrais d'abord répondre à la question dont vous avez parlé. Si vous avez parlé de la déclaration qu'a fait le Premier ministre. Le Premier ministre a dit cela en disant que c'était au peuple iranien de choisir leurs dirigeants. Ce n'est pas à Israël de le faire. Et effectivement, je peux vous dire d'une façon très claire que tant que ce régime sera en place, tant que le régime iranien sera en place, il n'y aura pas entièrement de paix au Moyen-Orient, parce que c'est un régime révolutionnaire qui veut changer la façade du Moyen-Orient, qui veut changer le Moyen-Orient en utilisant la force et la violence et le terrorisme.
Et sur Gaza alors, théâtre d'opération devenu secondaire, est-ce que ce théâtre est devenu secondaire pour Israël?
De toutes les façons, nous arrivons à la fin de la guerre à Gaza. Le Hamas n'a plus les capacités qu'il avait. Cette guerre à Gaza se terminerait immédiatement si demain ou aujourd'hui, le Hamas libérait tous nos otages. Et ça, nous l'avons dit depuis longtemps. Et ils n'ont qu'à nous tester. Qu'ils libèrent nos otages, cette guerre sera terminée. Nous n'avons rien à faire à Gaza. Nous ne comptons pas rester à Gaza. Nous n'avons jamais voulu annexer ou repeupler Gaza. Et Gaza est aux Palestiniens. Appartient aux Palestiniens et restera aux Palestiniens. Ce que nous voulons, c'est nos otages et qu'ils nous laissent vivre en paix.
Guilhem Deltay.
Vous dites que la guerre arrive à sa fin à Gaza. Pourtant, le processus politique est un petit peu à l'arrêt autour de la bande de Gaza. Les négociations peinent à avancer. C'est quoi l'avenir de Gaza?
D'abord, les négociations peinent à avancer parce que vous savez qu'à deux fois, à deux occasions, des offres de cessez-le-feu ont été présentées par l'envoyé spécial du président des États-Unis, M. Witkoff. Et à ces deux occasions, Israël les a acceptées et elles ont été rejetées par le Hamas. Alors, vous savez, le fait que ces organisations, les dirigeants palestiniens rejettent des offres de paix qui sont faites, est quelque chose qui se fait régulièrement, dans laquelle nous, généralement...
D'autres offres ont été faites par le Hamas et ont été rejetées par Israël. C'est le propre des négociations, c'est qu'il faut parvenir à un compromis.
C'est pour ça qu'il y a l'envoyé spécial des États-Unis, Witkoff, et qui existe là. Ce ne sont pas des offres israéliennes, c'est des offres américaines et avec lesquelles, les négociations auxquelles ont participé les Égyptiens et les Qataris. Ce n'était pas des offres israéliennes. L'offre israélienne est très claire.
Mais dans armes, votre vision Gaza, à vous, ça serait quoi, du coup, l'avenir de Gaza, dans la vision israélienne?
C'est à notre vision à nous, c'est que Gaza appartient aux Gazaouis et doit être géré éventuellement par les Gazaouis, et simplement que ce soit démilitarisé, désarmé et qu'ils vivent en paix avec nous.
Merci beaucoup à vous, Joshua Zarqa, ambassadeur d'Israël en France. Merci d'avoir été en direct avec nous. Également merci à Guilhem Deltaï du service international de RFI. Direction maintenant l'Inde, où la mode se teinte de patriotisme quelques heures après les premières frappes indiennes contre le Pakistan en réponse à l'attaque au Cachemire. C'était le 22 avril dernier. La machine commerciale s'est mise en marche. Des entrepreneurs ont lancé des t-shirts, des casquettes, des produits dérivés aux couleurs de l'opération militaire indienne. Une vague de consommation nationaliste hindoue qui gagne du terrain. C'est un reportage de notre correspondante à New Delhi, Léa Ojal.
Gourdes, enceintes et surtout vêtements au message bien tranché, ici, le nationalisme s'affiche en grand. En tête des ventes en ce moment, un t-shirt blanc barré d'un rouge éclatant avec l'inscription « Opération Sindoor ». Pour le créateur de la marque, ce n'est pas qu'un effet de mode, c'est une façon assumée de revendiquer son patriotisme.
This design is not just about
fashion. Ce design ne relève pas seulement de la mode. Il rend hommage au courage et au sacrifice de nos soldats tout en sensibilisant aux réalités auxquelles ils sont confrontés. L'opération Sindoor symbolise le courage, le patriotisme et l'esprit de l'Inde.
And the spirit of India.
Dans ce quartier riche du sud de New Delhi, même les écrans publicitaires diffusent des visuels glorifiant l'opération militaire indienne. Un élan patriotique que Kashish assume pleinement.
Un jour, c'est sûr, je voudrais porter ce t-shirt. L'opération Sindoor est l'une des plus grandes opérations que l'Inde ait menées jusqu'à présent, ou même dans toute une vie, on peut vraiment le dire.
Sur Internet, comme dans les rayons des librairies, le nationalisme indien est omniprésent. Ramesh, libraire, constate une hausse des ventes de livres sur les conflits passés.
Après Sindoor, les livres sur les guerres de 1965 et 1971 sont très demandés.
C'est en fait le gouvernement indien qui est à l'origine de cette communication minutieuse pour susciter un fort sentiment nationaliste. Kunal Purohit, auteur et journaliste indien.
Je pense que c'est à ce moment-là que le gouvernement indien a très habilement pris la décision de rendre cette opération militaire vendable, de la présenter de manière compréhensible et accessible pour le public national, en l'appelant tout d'abord l'opération Sindoor. Ce nom vise encore une fois à toucher une corde sensible émotionnelle chez le public indien en disant que l'opération a été lancée pour venger la perte des maris de ces femmes qui se trouvaient au Cachemire au moment de l'attentat. Construire une narration autour de cette opération de contre-terrorisme a donc été crucial pour le gouvernement indien.
Depuis son arrivée au pouvoir en 2014, Narendra Modi s'est emparé des codes de la culture populaire pour imprimer sa vision. Clips musicaux, films patriotiques, slogans viraux, tout est bon pour ancrer sa vision dans l'imaginaire collectif indien. Léa Ojal, New Delhi, RFI.
Et sur RFI, à suivre toute l'actualité africaine, Afrique Midi avec Nicolas Brousse. C'est dans une petite minute, juste après ceci. À tout de suite.
Tout à l'heure sur RFI. Écho d'ici, écho d'ailleurs, Bruno Faure.
Vidia Mistral, c'est le grand partenariat annoncé cette semaine lors de l'événement Viva Tech à Paris. Un investissement en milliards de dollars du géant de l'IA américain. Quelles conséquences pour ce secteur stratégique? Quelles implications pour les Européens et pour le reste du monde?
Écho d'ici, écho d'ailleurs,
avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tout à l'heure, à 23h10 TU, sur RFI.
Queen Rima, lauréate du prix découverte RFI 2025, sera en concert à Paris le 26 juin. La reine du dancehall made in Guinée vous attend pour un show exceptionnel au New Morning. Invitation gratuite à retirer sur le site du New Morning, sur With Event et sur rfi.fr/musique. Le prix découverte RFI en partenariat avec l'Institut français.